l'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité internationale.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Françoise Dubourg et Chantal Germain de la CIMADE et nous allons vous parler, bien sûr, de cette loi asile et migration qui vient juste d'être votée par l'Assemblée nationale. Nous sommes en pleine actualité et justement de ce qui se prépare à ce point de vue-là par les associations qui ont déjà depuis plusieurs semaines maintenant, préparé
plusieurs mois même,
les états généraux d'immigration.
Alors, la loi asile et immigration, dont on nous a rebattu les oreilles depuis quelque temps, est au prétexte qu'il y avait une véritable invasion migratoire, une submersion. En réalité, il n'y a pas de submersion, mais c'est un moyen de retourner l'opinion publique par l'hostilité aux étrangers. Donc cette loi asile et immigration, le prétexte est c'est une loi équilibrée, c'est une loi de fermeté, est une loi de
qui doit faciliter l'intégration
d'humanisme. Ah voilà, oui. C'est ça. Donc ce que l'on peut dire, c'est que l'humanisme est beaucoup moins représenté dans la loi que la fermeté et que la régression. Donc c'est une loi de régression, elle a été votée cette nuit, vous l'avez sans doute appris ce matin, peu de personnes se sont hasardées à voter non dans le parti majoritaire qui est le parti La République En Marche.
Un seul député a voté non,
mais 14 abstentions quand
même. Oui, et qui a préféré d'ailleurs se retirer de lui-même du groupe parlementaire, puisque la menace était de l'exclusion. Donc cette loi dont on a parlé depuis plusieurs mois, a amené les associations à se réunir dans une grande association générale de 470 associations de base et de se réunir pour mettre en place des cahiers de doléances et essayer de proposer une nouvelle loi qui serait réellement humaniste, ferme peut-être, mais réellement humaniste. Donc cette mobilisation des associations, c'est dans le but de réunir au mois de mai les états généraux des migrations. États généraux des migrations, donc depuis plusieurs mois, différentes associations se réunissent un peu partout en France. Il y a 75 assemblées nationales des états généraux. Elles se réunissent pour réfléchir à ce que pourrait être une véritable loi sur les migrations. Et elles se réunissent aussi pour préparer des événements à la fois festifs et critique vis-à-vis de cette loi, mais que les personnes puissent se rendre compte que les étrangers ne sont pas un danger, bien au contraire, c'est une richesse que nous n'utilisons pas. Alors, 1110 amendements ont été traités en raison de, je sais pas, une soixantaine d'heures de débat. La loi va désormais passer devant le Sénat, qui s'est promis, étant donné sa majorité de droite, qui s'est promis de la durcir encore, hein, tout simplement. Et ce que l'on constate, c'est que cette loi, telle qu'elle est aujourd'hui, même sans les interventions du Sénat, c'est un recul des droits humains, c'est un recul des droits de l'homme. Et le gouvernement a tendance à dire « oui, mais on va mieux traiter les demandeurs d'asile qui ont le droit de venir, mais parallèlement, on va repousser les migrants économiques », je mets entre guillemets, parce que cette appellation, évidemment, n'est pas du tout la nôtre, celle des associations. Donc, de manière à ce que les migrants économiques soient rejetés et expulsés. Donc, on en est là. Alors, mieux traiter les demandeurs d'asile, ce n'est pas évident. Parce qu'au contraire, il y a même deux points qui leur sont défavorables.
Contraire, oui.
Défavorables. C'est le fait qu'on réduit le temps qui est disponible pour préparer son dossier devant l'OFPRA et surtout devant la CNDA. C'est-à-dire devant la Cour nationale des demandeurs d'asile. Donc, le demandeur d'asile n'aura plus beaucoup de temps, il aura 15 jours, ce qui est très peu dans sa situation. Et il risque en plus de passer en visioconférence, puisque pour faciliter les choses, on mettra pour faciliter, je parle au nom du gouvernement là,
oui,
j'ai mis entre guillemets.
Les tâches administratives.
Voilà, donc on mettra des visioconférences, c'est-à-dire que la personne qui doit défendre son dossier, difficile à défendre dans une langue qui n'est pas la sienne, sera en plus en face d'une télévision et non pas d'un être humain, ce qui est quand même lourd à supporter pour les personnes qui demandent l'asile. En fait, cette loi
vous l'avez nommé le code de la honte.
C'est absolument. Le code de la honte, c'est de la maltraitance qui est mise en place par le gouvernement. Donc la politique migratoire que cette loi doit instaurer est en fait un attentat aux droits de la famille en particulier, et aux droits fondamentaux d'une manière générale.
Oui, tout à fait. Ce sur quoi il faut insister, c'est effectivement le clivage qui a été instauré par le gouvernement entre ce qu'on peut appeler les bons migrants et les bons demandeurs d'asile et les mauvais demandeurs d'asile, c'est-à-dire les demandeurs d'asile économiques, en oubliant et bien évidemment et en gommant complètement le fait que ce sont des gens qui ont quitté leur pays parce qu'ils sont dans des conditions économiques extrêmement difficiles, qu'ils sont bien souvent dans des pays où les dictatures ont fait pas mal de ravages, où il n'y a pas d'emploi, où il y a effectivement des conditions de vie très très dures. Et en outre, ce sur quoi il faut insister, c'est que pour arriver en Europe, ils ont traversé plusieurs pays, et notamment la Libye, dont on a beaucoup parlé, où ils ont vécu des sévices particulièrement violents. Et bien évidemment, il y a aussi le franchissement de la Méditerranée qui s'est transformé en cimetière depuis ces dernières années. Donc tout ça, évidemment, a été gommé par le gouvernement pour dire que, effectivement, cette loi était destinée à mieux accueillir ceux qui avaient le droit, d'après eux, de prétendre à demander l'asile.
Mais donc, c'est un raisonnement qui ne prend pas en compte ce qui va se passer dans l'avenir avec les réfugiés
environnement. Voilà, les réfugiés climatiques. Oui. Et de toute façon, bien évidemment, comme on peut le voir, les guerres, celles qui sont en cours ne sont pas terminées. Et bien évidemment, vu le niveau des ventes d'armes partout et où la France se positionne vraiment très bien, on ne peut pas imaginer que les guerres vont cesser parallèlement à tout ce qui se passe. Donc, tout le monde sait qu'il va y avoir une progression des demandeurs d'asile, enfin une progression des migrations et des arrivées sur l'Europe. Bon, les États-Unis ont déjà beaucoup de migrants, mais l'Europe est particulièrement visée justement par ces populations, parce que c'est effectivement tout un territoire qui était généralement, surtout l'Europe de l'Europe occidentale, on va dire, qui était une terre d'accueil. Or là, que ce soit au niveau de la France ou d'autres pays, les pays nordiques notamment, on a pu voir que, alors que dans un premier temps, ils ont montré l'exemple, ils ont accueilli, ils ont intégré, etc., avec la montée des populismes dans toute l'Europe, et en France, on le voit également, et bien évidemment, les préoccupations électorales prennent le dessus et l'humanité passe bien après. Voilà.
Oui, or, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce sont les pays du Sud qui reçoivent le plus de migrants.
Tout à fait.
Ce n'est pas du tout l'Europe.
Tout à fait.
Si on prend l'exemple de la Syrie et des Syriens qui ont dû s'expatrier, on a au Liban, on a presque 2 millions de migrants, de Syriens, qui sont installés depuis 4 ou 5 ans. En Turquie, on en a 3 millions. Et on en a 800 000 en Jordanie. Combien sont-ils en France et en Europe? C'est loin d'être des chiffres comparables à ceux-ci.
Tout à fait. Et on a passé... ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'Europe forteresse s'est armée et a passé des accords de honte, là aussi, avec des pays comme la Libye. Il y a un film récent qui s'appelle « L'état des choses », qui est passé sur les accords qui ont été contractés avec des milices, avec des tribus. L'Italie a également passé des accords, déjà depuis un petit moment. Et actuellement, la seule préoccupation, c'est de savoir comment on va pouvoir refouler tous ces gens sans que ça coûte trop d'argent. Mais on préfère mettre l'argent dans la défense de l'Europe que dans l'aide au développement des pays d'où viennent ces migrants, notamment l'Afrique tropicale. Subsaharienne plutôt, et les pays de l'Afrique de l'Est également, le Soudan, l'Érythrée, qui sont particulièrement touchés par des régimes dictatoriaux, par des guerres incessantes et des populations qui fuient des conditions de vie absolument terribles.
Vous avez parlé de l'aide au développement. Je crois qu'il faut signaler aussi que quand on renvoie dans son pays un étranger, cela coûte très cher.
Tout à fait.
Et que c'est pris justement dans les budgets de l'aide au développement.
Exactement. Évidemment, pour accompagner un étranger, il faut plusieurs policiers qui vont prendre l'avion avec lui, qui vont faire leurs heures et puis se remplacer mutuellement. Et donc, effectivement, ça coûte terriblement cher. Sous Pasqua, il y avait les charters. Bon, pour l'instant, on n'a pas de charters, mais c'est incohérent de toujours dire oh, il ne faut pas trop dépenser, etc. Les étrangers, ça coûte cher. Alors, ce n'est absolument pas vrai. L'étranger ne coûte pas cher, puisqu'il n'a aucun, l'étranger sans papier n'a aucun droit. Il ne coûte rien, sinon le travail au noir qu'il exécute et dont il ne recevra jamais les retombées comme retraite ou choses comme ça. Donc, ça coûte très cher. Construire des murs pour protéger les frontières, que ce soit au Maroc, à Ceuta, Melilla, ou que ce soit à Calais, que ce soit en Hongrie, c'est des murs qui sont extrêmement perfectionnés, qui ont tous les équipements techniques, électroniques, modernes. Tout cela coûte très cher. Ça coûte sans doute beaucoup plus cher que de construire un centre d'accueil convenable pour accueillir les étrangers.
Alors, vous avez pensé à une musique?
Oui. Eh bien, je me suis dit que la chanson de John Baez, qui s'appelle Another World, Un autre monde, était tout à fait d'usage aujourd'hui, étant donné qu'on est en train de basculer vers un monde plus injuste, plus difficile, plus dur. Donc c'est cet air-là, un autre monde.
I need another place. There be peace. I need another world. This one's nearly gone. Still have too many dreams. Never seen the light. I need another world. A place where I can go. Another world, another world. I'm gonna miss the sea. Gonna miss the snow. I'm gonna miss the bees. I'll miss the things that grow. I'm gonna miss the trees. Gonna miss the sun. I'll miss the animals. I'll miss you, everyone.
Alors, ces états généraux des migrations, donc, qui se préparent pour le mois de mai, que vont-ils mettre sur pied comme manifestation?
Alors, dans un premier temps, les assemblées locales ont travaillé sur faire un état des lieux, faire des propositions, en quelque sorte un cahier de doléances, comme on les faisait au moment de la Révolution française. Donc, l'état des lieux, c'est répertorier les personnes que nous recevons. Et parmi ces personnes reçues à la CIMAD ou ailleurs, il y a les mineurs isolés.
Oui, dont on parlera, après peut-être.
Voilà. Donc, il y a différents types de personnes, mais les mineurs isolés nous préoccupent beaucoup, on en reparlera. Ce que nous avons constaté aussi, c'est un état de suspicion permanente vis-à-vis des étrangers. Le parent d'enfant français, peut-être n'est-il pas le vrai père. Le conjoint de français, c'était sans doute un mariage gris, etc. Donc, il y a une suspicion qui est vraiment inacceptable. Ensuite, après cet état des lieux, je passe très rapidement, nous avons fait des projets. Comment prendre en charge tout cela? Quelles sont les propositions que l'on peut faire? Alors, tout de suite, ce qu'on peut faire sans que ça coûte rien, c'est mieux accueillir les personnes étrangères et montrer de la bienveillance envers les mineurs isolés. Ça a été la première chose que nous avons dite sur les propositions. Développer les régularisations, parce qu'on parle beaucoup en ce moment des demandeurs d'asile, des migrants dits économiques, mais il ne faut pas oublier qu'il y a en France un certain nombre de personnes, sans doute 200 000 peut-être, ou quelque chose comme ça, personnes qui sont sans titre de séjour, qui sont ni expulsables, ni régularisables, et qui vivent dans des conditions très difficiles, sous un faux nom le plus souvent. Donc, ces régularisations, rien n'est prévu dans la loi pour ces personnes. Ce que nous souhaitons aussi, c'est que les pratiques administratives soient plus humanisées. Par exemple, prendre des rendez-vous par ordinateur, c'est bien, mais pour les personnes qui n'ont pas d'ordinateur, c'est dramatique, puisque le rendez-vous doit se prendre pendant un très court laps de temps, le dimanche soir ou lundi matin, entre minuit et quelques minutes après minuit, il n'y a déjà plus de rendez-vous disponible. Ce que nous constatons aussi, et qui est très difficile, c'est le droit à l'hébergement. À Montpellier, comme dans beaucoup de villes, comme à Paris, il y a des personnes qui vivent sur les trottoirs, dans les rues, et il y a également quelques squats. Mais ce n'est pas normal qu'on ait autant de personnes qui vivent dehors, même si souvent on se bouche les yeux pour dire « Oh, il y en a très peu ». Il y en a beaucoup plus qu'on ne veut bien le reconnaître au niveau de...
Juste pour insister sur ce point de l'hébergement, il faut savoir quand même qu'en Allemagne, qui a accueilli
500 000 la première année, oui, et 320 000 l'année suivante.
Et, donc, dans des proportions qui sont sans commune mesure avec la France, les demandeurs d'asile sont hébergés dès qu'ils déposent une demande d'asile, ils sont hébergés. Alors évidemment, ils sont pas. On leur impose un lieu d'hébergement de manière à dispatcher un petit peu sur tout le territoire, mais ils sont hébergés et ils sont nourris. Ils ont des tickets repas. Enfin bon, voilà, chose qui n'existe absolument pas en France. Et actuellement, il faut quand même savoir que au niveau des demandes d'asile à Montpellier, par exemple, pour déposer sa demande, il faut attendre entre 15 jours et 3 semaines pour passer à la plateforme d'accueil, et ensuite attendre encore 15 jours pour passer au guichet unique des demandeurs d'asile à la préfecture. Donc pendant tout ce temps, il n'y a absolument aucune prise en charge. Les gens sont abandonnés carrément dans la rue. Il y a des familles avec des enfants. Et donc, bien évidemment, il y a des squats qui permettent aussi de mettre à l'abri les personnes les plus vulnérables. Voilà.
Et oui, c'est bien constaté par les maraudes qui sont faites par Médecins du Monde et par d'autres associations.
Donc, il s'agit d'hébergement citoyen, comme l'on dit. Ce n'est quand même pas normal. En Allemagne, on donne 600 heures d'enseignement de l'allemand pour que les personnes se débrouillent le plus vite possible avec la langue dans laquelle ils vivent. En France, on donne 200 heures royalement.
Et encore pas tout le monde.
Et pas tout le monde, oui. Donc, vous voyez, ce que l'on réclame aussi, c'est la remise en service de voies d'immigration légale. Aujourd'hui, dans la mesure où on ne vend pas de visa, les gens ne peuvent pas prendre l'avion et dire « je prends l'avion et je me rends en France ou dans un pays européen ». C'est très difficile. Donc, il faut rouvrir des voies d'immigration légale qui seront beaucoup moins dangereuses que les voies qu'utilisent les étrangers actuellement, puisque c'est des voies qui sont mises en coupe réglée par des mafias, par des passeurs, et d'où les mauvais traitements, le vol d'argent, les sévices qu'on leur fait subir. Alors, donc, ce sont peut-être les principales valeurs que nous avons proposer, mais surtout ce que nous voulons faire, c'est développer le parrainage citoyen et ne pas arrêter les états généraux quand la loi sera définitivement votée, parce que ce serait dommage que toute cette ébullition en faveur des demandeurs d'asile et des étrangers se perde dans la nature. Donc, quel que soit l'état du vote le 3 juin, il y aura une grande manifestation à 7 pour toute la région avec, on posera des petits bateaux sur l'eau, qui représenteront les personnes qui sont mortes en Méditerranée. Et puis, il y aura une marche depuis le cimetière marin, l'équivalent de la Méditerranée, qui est devenu le plus grand cimetière marin du monde, et une marche jusqu'au centre de rétention administrative dans les anciens bâtiments de la douane.
Ce sera à quelle date ?
Le 3 juin.
C'est un
samedi, je crois.
En fait, c'est 30 000 étoiles qui seront jetées à la mer en hommage à tous les morts en Méditerranée. Il y a également un autre projet, une proposition de pièce de théâtre par un yéménite qui est réfugié et qui est acteur et auteur de pièces de théâtre. Et enfin, ça a eu lieu, voilà. Donc, retenez bien la date du 3 juin à 7 pour cette manifestation. Plus on sera nombreux, plus ça aura de poids, bien évidemment.
Nous en reparlerons, bien sûr.
Voilà, donc, en ce qui concerne les cahiers de doléances, alors là, c'est celui de Montpellier, mais tous ces cahiers remontent à Paris, où il y a un comité de pilotage, et ce comité de pilotage élabore, à partir des apports de tous ces cahiers, élabore une proposition de loi humaniste, par rapport à la loi actuelle, dont les associations auraient bien voulu qu'elle n'existe pas et auraient souhaité qu'elle soit retirée.
Et la session plénière des États généraux d'immigration aura lieu le 26 et 27 mai 2018 à Paris.
Alors, parmi les personnes qui souffrent, bien sûr, de cette situation des migrants, eh bien, il y a les mineurs isolés dont nous souhaitons parler.
Voilà. Donc, les mineurs isolés, sur Montpellier, il y a quand même un traitement de ce problème qui est particulièrement préjudiciable et condamnable parce que les mineurs isolés sont considérés comme tous menteurs, tricheurs, voilà. Donc, ce qu'avait demandé le conseil départemental, c'est que quand un mineur isolé arrive et demande à être pris en charge à l'ASE, à l'aide sociale à l'enfance, il doit passer par la case commissariat. Pour quelle raison ? On n'en sait rien, mais au moins, c'est quand même très traumatisant pour des jeunes qui ont subi toutes ces épreuves de leur trajet, qu'on les oblige à aller d'abord au commissariat avant la moindre discussion, la moindre évaluation, etc. Donc, ce qui se passe, c'est que après, lorsque ils sont pris en charge, enfin, qu'ils passent, qu'ils arrivent à l'ASE, il y a une association, le RAI, qui s'occupe de l'évaluation de ces mineurs pour savoir s'ils sont mineurs ou s'ils sont majeurs. Voilà. Donc, après cette évaluation, il arrive souvent que le procureur demande à la police des frontières de faire passer, enfin, il demande au médecin, évidemment, de passer des tests osseux pour vérifier si ces jeunes sont bien majeurs.
Oui, les tests osseux, on le sait, ne sont pas adaptés.
Absolument.
Ils ne servent à rien.
Non seulement ils ne sont pas adaptés parce qu'il y a une marge d'erreur qui est très importante, entre 2 et 4 ans, et il y a la majorité des départements qui ont refusé de le pratiquer. Il y a des médecins qui refusent de le faire, mais malheureusement, à Montpellier, ça continue à être effectué. Et c'est assez traumatisant aussi pour ces jeunes. Voilà. Donc, une fois que ces jeunes sont pris en large façon de parler, sont évalués par l'ASE, ils sont hébergés, pendant tout ce temps, ils sont hébergés dans des hôtels où ils sont regroupés plus ou moins, il n'y a pas de travailleurs sociaux en nombre suffisant pour les accompagner, et donc ils sont livrés à eux-mêmes, toute la journée.
Désœuvrés.
Désœuvrés, ils n'ont pas accès à l'école, à une formation, rien du tout. Et on ne les tient absolument pas au courant de l'évolution
de leur dossier.
Et donc, un jour, eh bien, voilà, ils sont convoqués au tribunal et ils passent très rapidement, ils sont condamnés. Alors, les peines, c'est quand même énorme. Hein. On considère qu'ils sont effectivement mineurs, donc d'après les tests osseux, d'après les évaluations des uns et des autres, le procureur requiert 5 à 10 mois de prison ferme et de 5 à 10 ans d'interdiction du territoire français. Au final, le jeune se retrouve condamné entre 3 et 5 mois de prison ferme, assorti de 5 ans d'interdiction du territoire français. Avec un avocat qui n'a rien fait, si ce n'est éventuellement mentir sur son âge, en produisant des papiers qui lui ont souvent été fournis par des passeurs, qui leur ont donné la marche à suivre, bien évidemment. Oui. Il faut savoir que ces jeunes, bien souvent, sont envoyés par leur famille parce qu'ils vivent dans des conditions difficiles, que les parents sont décédés, et donc le reste de la famille leur dit « bon, ben, va tenter ta chance ailleurs hein. ». Donc, voilà dans quelle situation se trouvent ces jeunes qui sont condamnés à des peines lourdes quand même, hein, de 3 à 5 mois de prison, qui sont traumatisantes. Ils se retrouvent avec des prisonniers, ils sont à Villeneuve-les-Maguelones, ils se retrouvent avec des prisonniers de droit commun. Et voilà, simplement parce que le département se porte partie civile et donc demande une indemnisation pour les frais d'hébergement à l'hôtel, la nourriture, etc. Alors ce sont des sommes absolument astronomiques qui sont demandées et qui justifient justement la lourdeur de ces peines. Enfin, justifient entre guillemets. Hein. Rien n'est justifié, bien évidemment. Et donc, voilà, il se trouve qu'une fois qu'ils ont purgé leur peine, s'ils ne sont pas renvoyés immédiatement, ils se retrouvent livrés à eux-mêmes. Hein. Ils vont errer dans la rue. Enfin, on en a croisé suffisamment. Mais finalement, ils n'ont aucun avenir, puisque ils ont fait de la prison. Donc, faire une demande d'asile, pour eux, c'est rayé, hein, c'est terminé. Et trouver une issue sans droit au séjour, sans possibilité de régulariser leur situation, voilà à quoi ils sont condamnés. Donc, c'est double peine avec la prison, triple peine avec ce qui les attend après. Ce sont des situations vraiment extrêmement difficiles. Il faut savoir que le département de l'Hérault est le seul département qui demande ces indemnisations. Voilà. Hein. Et Lyon, le département des Bouches-du-Rhône,
qui n'ont pas le premier sou.
Voilà, bien évidemment. Mais c'est simplement pour justifier l'incarcération.
L'indemnisation actuellement du département s'élève à 900 000 euros. Cumuler les différents jeunes et puis les différents frais, si je peux dire, je mets entre guillemets les frais, 900 000 euros. C'est même inimaginable que quelqu'un puisse les payer.
Bien sûr. Donc voilà où on en est. Et il y avait justement deux audiences la semaine dernière, une lundi et une mercredi pour 5 jeunes.
Avions parlé ici.
Voilà.
Notamment.
Et donc je sais que il y a 3 jeunes qui ont été condamnés, qui sont condamnés à la prison, qui sont partis en prison, dont un qui a reconnu qu'il était majeur, mais les deux autres non. Et un autre jeune qui doit repasser aujourd'hui au tribunal administratif parce que, en fait, rien n'était prouvé sur... Enfin, il n'y avait pas de plainte sur le fait qu'il était mineur. Enfin, sur le fait qu'il avait menti sur son âge. Donc, du coup, il repasse au tribunal administratif aujourd'hui et je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà, donc
Oui, l'un d'entre eux, d'ailleurs, avait été soutenu par tout le corps éducatif.
Tout à fait, c'est Falikou qui passe aujourd'hui.
Oui.
Tout à fait. Voilà, alors que ce sont des jeunes qui sont pleins de bonne volonté, qui ne demandent qu'à être formés, qu'à aller à l'école, et ça représente tellement peu, c'est une si petite goutte d'eau dans tout le toutes les
le fonctionnement de cette répression,
voilà,
on peut dire.
Voilà. Hein, donc voilà, c'est vraiment une question de
parce qu'on encombre les tribunaux.
On encombre les tribunaux,
et
bien évidemment.
Les préfectures et voilà. Tout le monde.
Voilà, donc cette situation contre laquelle nous nous insurgeons et il faut souligner l'action de RESF en particulier qui les accompagne, qui accompagne tous les jeunes mineurs dans leur démarche dans ces procédures-là. Voilà.
Alors, je voudrais soulever très rapidement le fait du délit de solidarité. Cette loi ne l'a pas supprimé.
Non.
Non, elle l'a légèrement amélioré, semble-t-il,
oui,
d'après les nouvelles du matin, mais on n'a pas encore les textes écrits. Donc le délit de solidarité, eh bien, tout citoyen français peut être condamné s'il a aidé à l'entrée dans le pays d'une personne étrangère, s'il l'a aidé à circuler et s'il l'a hébergé. Donc voilà, je crois que l'amélioration va porter, mais la loi n'est pas supprimée, hein, l'amélioration va porter sur le fait qu'on distinguera celui qui a fait ça pour de l'argent, donc on peut le comprendre, et au contraire, le vraiment solidaire ne sera pas inquiété ou moins inquiété. Mais on sait comment, dans les périodes de suspicion comme ça, c'est difficile de faire confiance à ce genre de choses, surtout que la loi existe toujours. Donc,
voilà, donc le MAN a fait remarquer justement dans un communiqué que la désobéissance civile en ce cas serait pratiquée et soutenue. Et rappelle ce que disait Gandhi, la désobéissance civile est le droit imprescriptible de tout citoyen. Il ne saurait y renoncer sans cesser d'être un homme.
Oui. Habituellement, en ce qui concerne le délit de solidarité, les personnes qui sont dans les associations d'aide aux étrangers, associations reconnues, n'étaient pas inquiétées. Mais ce n'est plus vrai, puisque le président ou directeur de l'auberge des migrants à Calais a été inquiété. Il est convoqué par la police 2 ou 3 fois par semaine et il doit s'expliquer sur l'aide qu'il apporte.
Plus toutes les personnes qui ont été inquiétées dans la vallée de la Roya, à Vintimille, et maintenant
avec
à Briançon.
Voilà.
Hein. Donc, et Gérard Collomb, notre cher ministre de l'Intérieur, a été très clair là-dessus, c'est-à-dire que toutes les personnes, effectivement, le délit de solidarité ne sera pas retenu lorsqu'il s'agit d'abriter du froid, de nourrir, etc. Mais lorsqu'il s'agit d'aider quelqu'un à passer une frontière, alors là, effectivement, il est intraitable et il n'est pas question de revenir en arrière. Et comme il dit depuis le début, nous irons jusqu'au bout. Voilà, il est allé jusqu'au bout et c'est pour cela que nous avons parlé d'un code de la honte.
Voilà, alors je passe rapidement au calendrier. Eh bien, dès ce mardi, donc demain, mardi 24 avril, à 17h30, devant l'Office du tourisme Place de la Comédie, il y aura une flash mob, un die-in en mémoire des victimes du Rana Plaza. 5 ans après l'effondrement de l'usine textile à Dhaka dans le Bangladesh, où en sont les droits humains au travail? On peut dire que dans les décombres de l'usine qui s'était effondrée, on a trouvé des étiquettes de marques de textiles et de distributeurs occidentaux, Auchan, Mango, Benetton, Camailleux, Tex, Primax, et que depuis 2013, l'endroit où l'année où ça s'est passé, ces marques n'ont pas fait évoluer leurs pratiques. Donc, à 17h30, sur la place de la Comédie, devant l'Office du tourisme. Cela sera suivi d'ailleurs par un cercle de silence de 18 à 19h, place de la Comédie, pour protester justement contre cette loi sur l'immigration. La loi de la honte.
La loi de la honte, voilà.
Je rappelle aussi donc que le mercredi 25 avril, à la Maison des Adolescents à Montpellier, et d'ailleurs mercredi 24 avril aussi à 18h au Café Le Dôme, aura lieu une controverse théâtralisée, La transition écologique, pas facile tous les jours, qui est organisée par Alternativa et la compagnie Minibus avec le concours d'étudiants d'Agropolis. C'est la semaine de l'environnement qui commence aujourd'hui et vous pouvez trouver le programme complet qui est très riche sur ouvre-tête.fr. Samedi 28 avril, à la salle Joseph Claustre, cour des anciennes écoles à Grabels, il y a la projection du film Marius de Marcel Pagnol. L'entrée est au chapeau, une buvette à l'entracte, et c'est au profit de l'association Solidarité Haïti Savanette Grabels pour l'aide au financement de l'école de Savanette, et c'est organisé par la ligne grabeloise. Je rappelle que jusqu'au 28 juillet a lieu à Pierre-Vive une exposition « Nous et les autres, des préjugés au racisme ». À bientôt, chers auditeurs.